leur désigne la capacité, pour un corps ou un système quelconque, à retrouver ses propriétés initiales après une altération ou un accident.
Un défi à vélo, de Brest au Népal.
20 mois de voyage, 25 000 km à vélo.
Cancer, coma, polytraumatisme, trois fois aux portes de la mort.
L'espoir à la rencontre du handicap.
Résilience de l'Atlantique à l'Himalaya, au-delà du handicap. Bonjour et bienvenue pour cette séance de 100 mots de tête, la radio du GEM. C'est une émission un peu particulière, puisque aujourd'hui nous sommes en public et que nous recevons Vincent Bernard pour la projection de son film Résilience, de Brest au Népal, à vélo.
Bonjour Vincent Bernard, vous êtes né en 1980 à Mâcon, vous êtes ingénieur océanographe diplômé de l'ENSTA Bretagne. Suite à plusieurs accidents graves, vous vous battez, vous vous adaptez et vous fondez l'association Résilience 29, dont le but est de favoriser l'insertion des personnes handicapées et des traumatisés crâniens. Vous entreprenez un long voyage à vélo qui donnera naissance à Résilience, un film qui retrace tout votre parcours. Vincent Bernard, pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce film, comment vous est venue l'idée de ce périple?
Bonjour à tous. Donc, je suis très heureux de participer à la radio de 100 mots de tête avec vous. J'ai eu plusieurs accidents graves, commencé par un cancer avec chimiothérapie et radiothérapie. Puis plus tard, je voulais devenir guide de haute montagne. J'ai chuté de 80 mètres et j'étais en coma un mois et demi. À la suite de beaucoup de rééducation, j'ai repris mes études à l'ENSTA Bretagne, où j'ai été diplômé. Je travaillais à l'Ifremer à Brest. Et en revenant du travail, j'ai à nouveau chuté à vélo. J'étais dans le coma 10 jours. Donc là, ça a été de nouveau 6 mois, 1 an de rééducation qui s'est suivi. Et après ça, j'étais au fond du trou et je ne trouvais plus de travail. Donc du coup, aidé par ma famille et des amis, j'ai créé ce voyage de Brest au Népal à vélo pour retourner voir une famille de Népalais que j'avais rencontrée il y a quelques années. Je suis allé à la rencontre de beaucoup d'associations de personnes handicapées pour redonner de l'espoir autour de moi et montrer que même après des gros accidents comme ceux que j'avais eus et du coma, on pouvait encore vivre de belles choses. J'ai vécu ce voyage formidable de Brest au Népal. Et du coup, j'ai écrit un livre et fait le film pour pouvoir partager cette histoire avec le plus grand nombre. Et toutes les associations de personnes de traumatisés crâniens auxquelles j'adhère, d'abord à Brest et maintenant aussi à Bourg-en-Bresse aujourd'hui.
Avant de prendre quelques questions du public, j'aimerais commencer par vous demander où en est ce fameux projet de voyage à trois.
On est parti l'été dernier jusqu'à Brest en vélo. Tous les trois, on a fait 3000 km en tandem avec la carriole. Mais on va repartir prochainement. Mais à l'heure actuelle, ma femme, Marcella, finit ses études au conservatoire de Mâcon. Donc du coup, on va encore attendre l'année prochaine il faut qu'elle finisse encore l'année prochaine à la même période. Et après, on pourra partir faire ce grand voyage, sûrement retourner en Asie et passer forcément par le Chili et sa terre d'origine.
Merci encore. Et maintenant, la parole au public pour des questions autour du film et de votre voyage.
Le fromage français ne nous a pas trop manqué tout le temps que vous étiez là-bas?
Donc, j'aime effectivement bien le fromage et c'est vrai qu'ici, dans les Alpes, On peut être fier de notre fromage que j'aime beaucoup. Mais pendant tout ce voyage, j'ai tellement découvert d'autres bonheurs culinaires dans tous les pays rencontrés que c'était déjà un bonheur de découvrir partout des choses nouvelles, puis des expériences à chaque fois différentes pendant tout mon parcours, que du coup, j'ai jamais eu de manque. J'ai toujours été comblé par les choses nouvelles qui arrivaient jour après jour.
Et excusez-moi, combien parlez-vous de langues en tout ?
Alors maintenant, à l'heure actuelle, si on les recensait, que je suis capable de parler aujourd'hui, il y a surtout bien sûr le français, la langue maternelle, mais bon, l'anglais et bien sûr l'espagnol que je parle au quotidien avec ma femme pour essayer de l'enseigner à notre fils Balthazar. Mais en dehors de ça, comme je suis parti au Brésil, j'ai parlé le portugais. Donc je parlais pas trop mal le portugais à la fin du Brésil. Maintenant, c'est un petit peu plus loin. Et après, dans mon voyage, du coup, comme j'ai appris plusieurs langues latines, dont le français, l'espagnol et le portugais, j'ai appris aussi le roumain. Donc le roumain, je me débrouillais pas trop mal, je suis resté un mois et demi. Et après, j'ai appris aussi le grec. J'ai pas trop essayé parce que en fait, j'ai appris le grec ancien quand j'étais au lycée, mais j'avais des mauvais souvenirs, donc j'ai pas trop essayé de réapprendre à mon court passage en Grèce. Après le turc, par contre, je suis resté 2 mois et demi, donc j'ai essayé de maîtriser cette langue. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié l'hospitalité musulmane. Et après, je suis passé tout ce qui était le russe, je connaissais un ou deux mots, mais je ne pouvais pas du tout parler. Le chinois, pareil, enfin encore moins. Mais. Et par contre, après le népali, je connais quelques mots et simplement pour arriver à dialoguer avec la famille et demander la nourriture. Enfin, plusieurs choses, et après sinon ça va être tout, quoi. 6-7 langues, quoi. Après pas toutes de la même manière, quoi. Il y en a que je connais juste quelques mots et d'autres je connais mieux, mais c'est vrai que par rapport aux langues, c'est que enfin, pendant toute ma formation en fait à l'école d'ingénieur, j'ai des facilités en sciences, donc avant mes accidents. Et après mes accidents, du coup, j'ai pu reprendre un peu les sciences, mais ça a été difficile. Il a fallu que je travaille dur. Mais par contre, j'ai découvert que les langues où j'étais vraiment mauvais avant, ou peut-être que j'avais pas trop envie de les apprendre. Du coup, j'ai pas trop essayé. Enfin, j'étais pas trop fort en langue. Mais par contre, avec ce voyage, je me suis aperçu qu'une fois dans le pays, à parler avec les gens, les entendre tous les jours, du coup, j'étais capable aussi, même après le traumatisme crânien, de pouvoir encore apprendre une langue et de retenir. Alors, j'avais mon petit carnet où je notais tout, et tous les petits mots essentiels. Mais j'ai quand même réussi à maîtriser plusieurs langues.
Comment s'est fait le choix des pays traversés ?
Alors, c'est plutôt le choix de l'itinéraire. Mon objectif, parce que j'étais parti en fait au départ à la base au Népal, je suis parti en fait avant ce voyage en vélo. J'étais parti une première fois. Et du coup, comme c'est expliqué un petit peu dans le film très rapidement, je me suis pour aller faire de la randonnée, pour essayer de. Mais à cause de mes problèmes d'équilibre, je me suis dit, mais peut-être que la haute montagne, c'est plus possible, mais la randonnée, c'est peut-être encore possible. Mais là, ça a été vraiment un enchaînement de déceptions, parce que tous les Népalais qui ont un bon équilibre, se moquaient un peu de moi et tout, et c'était difficile après tout. Toutes les années de montagne et de haute montagne que j'avais fait, me retrouver à bas niveau. Donc du coup, j'étais parti dans la jungle pour faire autre chose. J'ai d'abord visité la jungle pendant 2-3 jours, et où j'ai vu tous les animaux, les crocodiles, les rhinocéros qu'on peut voir dans la jungle népalaise. Et après, en fait, j'ai sympathisé avec le garçon du café. Et du coup, j'ai fait un pacte avec lui et j'ai loué un vélo pour moi et pour lui. Et en échange, il m'emmenait dans sa famille et je passais une nuit dans sa famille. Donc, du coup, j'ai passé une nuit dans sa famille. Et là-bas, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de construire une nouvelle maison, mais que les travaux étaient au point mort. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi vous ne travaillez pas dessus ? Il me dit, il nous manque du financement pour acheter du ciment. Donc, du coup, j'ai payé du ciment pour 3 jours et j'ai construit la maison avec pendant 3 jours. Et le troisième jour, il s'est mis à pleuvoir des cordes. Donc, on ne pouvait plus faire de ciment. Donc, ils m'ont dit, va aller à l'école avec les enfants, ça va être beaucoup plus intéressant pour toi. Dans cette école népalaise, tous les enseignements se faisaient en anglais. Là, j'ai pu comprendre un peu les cours. Et le professeur de mathématiques, voyant que j'étais ingénieur, il me dit « Tiens, enseigne un peu à ma place et tout, ça peut être intéressant pour toi. » Et du coup, je me suis retrouvé à enseigner dans l'école népalaise aux jeunes enfants. Et après ça, j'ai discuté avec la direction et je me suis retrouvé pendant 3 semaines à enseigner jusqu'à la fin de mon visa, à enseigner dans cette famille népalaise. Et c'est pour ça que je les connais bien. Et c'est pour ça que, comme pour aller à l'école, on allait toujours en vélo, et que les Népalais aimaient bien le vélo, que moi je pouvais toujours faire du vélo. J'avais acheté un vélo là-bas, mais alors le vélo, il était un peu trop petit pour moi, et mes genoux, ils tapaient dans le guidon. Donc c'était assez désagréable. Donc je m'étais dit, il faut que je revienne avec mon propre vélo. Et c'est comme ça qu'était née l'idée, le rêve de partir de la France jusqu'au Népal à vélo. Et après, je m'étais dit, en plus, ça sera l'occasion de rencontrer tous les pays, toutes les populations traversées, toutes les populations des pays entre la France et le Népal. Parce qu'un voyage en avion, c'est bien beau, ça nous permet de faire une grande distance et tout. Mais en même temps, on ne sait pas ce qu'il y a, ce qui se passe dans tous les pays en dessous. Et comme ça, j'ai pu découvrir tout le trajet de France au Népal. Et après, avec la construction plus tard de mon deuxième accident, j'ai pu monter ce projet par rapport au handicap qui a formé cette histoire magique qui m'a transporté encore jusqu'à aujourd'hui, parce que du coup, pour la partager encore mieux, j'ai écrit ce livre et après, on a fait ce film qui permet de la rendre accessible encore plus facilement à un plus grand nombre.
Quel pays vous préférez ?
Tous les pays, toutes les rencontres ont été fortes. J'ai eu dans tous les pays des rencontres très fortes. Et je trouve que c'est de créer des classements et de mettre un mieux que les autres, c'est là où sont créés les conflits en fait sur notre planète quand on y réfléchit. C'est parce qu'on se dit, eux, ils sont mieux que les autres, que du coup, après, on se croit supérieur, et ce sentiment de supériorité, ça fait naître tout ce qui est racisme, et tout ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire la paix avec tout le monde et de vivre des beaux événements avec tous les pays et toutes les personnes de n'importe où elles viennent, elles peuvent être intéressantes et on peut construire quelque chose ensemble.
Et La Tordue a fait une chanson qui est vraiment superbe, qui s'appelle La Bête. Et donc, les paroles à la fin de la chanson, c'est « Et que nous habitons tous le même pays et qui s'appelle la Terre ». Super, hein ?
Auprès des artistes français, puis de tous les artistes, justement, il y a beaucoup de... Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le monde artistique, parce que souvent, ça gomme les différences et ça fait ressortir les beautés, surtout les beautés qui existent dans tous les peuples. Dans tous les peuples, il y a des beautés. Et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis... pendant mes accidents, et pendant ma éducation, je me suis mis beaucoup à la peinture. Et comme on voit aussi un petit peu dans le film, j'ai fait du violoncelle étant plus jeune. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très fier d'être marié avec une grande artiste aussi qui joue magnifiquement du piano. Et je trouve que tout ce qui est art, c'est une beauté, c'est la beauté de la vie, et ça gomme toutes les différences, toutes les sources de conflits. C'est mieux de regarder ce qui est beau dans la vie que ce qui crée des différences et des jalousies.
À quel âge vous avez eu un traumatisme et quelles sont les séquelles aujourd'hui?
Dans ma vie, j'ai eu plusieurs traumatismes et plusieurs ennuis de santé. Donc, j'ai eu à peu près à 19-20 ans mon lymphome de Hodgkin, qui est un cancer du sang, en fait, un peu une leucémie, donc, qui m'a arrêté mes cours pendant un an, le temps de faire la chimiothérapie et la radiothérapie. Et donc ça, c'était voilà, 19 ans. Après, j'ai eu en 2004, donc j'avais, comme je suis 80, j'avais 23 ans. J'avais 23 ans, j'ai eu mon premier gros accident de montagne qui m'a donné beaucoup de conséquences neurologiques, donc beaucoup de problèmes de mémoire, de problèmes physiques au départ, parce qu'au départ, il a fallu réapprendre à marcher. En fait, j'avais tout le côté gauche qui était un peu enroulé, et du coup je pouvais pas tendre la jambe, je peux toujours pas tendre le bras, donc du coup plusieurs contraintes sur le côté gauche que j'ai appris à vivre avec aujourd'hui, et bon, même si j'ai toujours un peu de raideur maintenant, j'arrive de nouveau à courir un petit peu. Donc voilà, c'est mon premier gros accident. Et lui, après, j'ai repris aussi. J'ai eu un an de rééducation physique, et après, j'ai eu 8 mois de rééducation cognitive, où j'étais à Saint-Hilaire-du-Touvet, à côté de Grenoble, où j'ai pu recommencer à faire du sport. Donc, ça m'a permis de rêver à être guide de moyenne montagne, mais à cause des problèmes d'équilibre au Népal, c'est comme je l'explique dans le. Dans le film, ça n'a pas été possible. Mais j'ai pu réapprendre, en fait, donc tout ce temps. Donc ça a été long. Mais après, j'ai repris mes études à Brest. J'étais diplômé. Et après, j'ai travaillé l'Ifremer. Et là, j'ai eu un deuxième accident en 2008. Voilà, et du coup, à la suite de ce deuxième accident qui a nécessité encore 6 mois d'éducation, par contre, j'ai eu l'impression là d'avoir beaucoup moins de ralentissement cognitif. Parce qu'au niveau du débit du langage, toutes les choses comme ça, j'avais beaucoup moins de retard. Mais il a quand même fallu bien 6 mois d'éducation, parce que j'ai eu beaucoup de fractures au niveau des vertèbres, et puis beaucoup dans toute la main. Pas mal, et aussi au niveau de la mâchoire, donc il a fallu me faire réopérer 2 fois avant de pouvoir réaliser ça. D'ailleurs, c'est pour ça que dans mon voyage, je vais mettre 6 mois à le préparer. Parce qu'en fait, comme j'avais des appareils, et avant de après m'être fait réopérer, je ne pouvais pas partir tout de suite. Parce qu'il fallait toutes les semaines aller me refaire serrer l'appareil et tout auprès de l'orthodontiste. C'est ce qui m'a empêché de partir. Mais en même temps, j'ai pris ça comme un bien. Et ça j'ai cherché des partenaires. J'ai cherché des associations que je pourrais aller voir dans chaque pays. Ça m'a permis de vraiment préparer ce voyage et de l'avoir rendu aussi magique par toutes les rencontres que ça a permis tout au long du voyage.
Vous avez parlé de cognitif. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, cognitif, c'est au niveau de la mémoire. Donc, du coup, j'ai dû m'adapter avec ces problèmes de mémoire. Du coup, j'ai un carnet maintenant toujours avec moi, qui est là dans ma banane, où je marque toutes les choses qu'il ne faut pas que j'oublie. Et ça, c'est des choses qu'avant mon accident, je n'étais pas obligé de faire. Et qui maintenant, j'ai dû apprendre j'ai essayé de m'exercer et tout au maximum, mais où après il a fallu vivre avec ça, et c'est en essayant de limiter les conséquences au maximum. Souvent les difficultés des traumatismes crâniens, c'est des choses qu'on ne perçoit pas ou peu de l'extérieur et qui en fait sont très handicapantes parce que quand je vais chercher quelque chose, je peux passer des journées entières à chercher certaines choses et du coup ça me perd beaucoup de temps et ça me stresse beaucoup plus qu'avant. Alors qu'avant j'étais beaucoup plus serein par rapport à ça. Tout du moins je perdais moins de temps par rapport à ça. Alors que maintenant je perds beaucoup de temps à rechercher des choses. Mais en même temps j'ai appris à vivre avec et il faut voir toutes les belles choses qu'on peut encore vivre. Parce que même en étant handicapé, du coup depuis que j'ai rencontré ma femme, là on est en train de monter un gros projet ensemble qui va bientôt se mettre en place. Alors, on va faire le triathlon de Bourg-en-Bresse en fait en handisport où on va être tous les trois en fait ma femme et moi sur le tandem et mon petit garçon dans la carriole comme on est allé à Brest l'été dernier. On va nager enfin tous les deux, on va nager 1,5 km tous les deux, puis après on fera 40 km en tandem avec la carriole et pour finir avec 10 km de course à pied tous les trois encore en poussant la carriole. Et donc ça a été magique grâce à l'AFTC de l'Ain dans laquelle j'étais allé faire une conférence il y a peut-être un an et demi. On a pu s'inscrire de cette manière au triathlon de Bourg-en-Bresse. Je trouve que ça va être encore une belle histoire de sur-résilience et c'est quelque chose que on pourrait retrouver les photos sur le blog www.resiliencevincent.fr.
Vous avez donc traversé plein de pays, vous avez rencontré plein de gens, plein d'associations. Quel contact vous avez toujours avec ces associations? Enfin, comment vous avez entretenu ces contacts aujourd'hui?
C'est vrai que j'ai rencontré et ça a fait des belles rencontres sur le moment. Mais après, du coup, quand je suis rentré de ce voyage, je me suis d'abord attelé à écrire le livre un peu de cette belle expérience pour la partager avec toutes les associations et toutes les personnes qui avaient envie de vivre par la lecture cette belle expérience. Et c'est vrai que par rapport aux associations que j'ai rencontrées, c'est trop compliqué pour moi personnellement d'entretenir le contact. J'ai toujours contact par contre avec la famille que je suis allé retrouver au Népal. Et d'ailleurs, on y retourne en fin octobre, début novembre. On retourne 3 semaines pour que j'emmène aussi mon fils et ma femme rencontrer ma famille népalaise de cœur. Et du coup, c'est le contact que j'ai gardé grâce à Internet, que je garde régulièrement. Mais après, c'est avec toutes les associations que j'ai rencontrées. Si je refaisais le même voyage, je pense que c'est même pas possible parce que ma résilience, elle est faite. Et il faut regarder devant. Je pense que si on refait un autre voyage, ce sera autre chose. Parce que de voyager à trois, comme on a pu le voir en allant à Brest, c'est complètement autre chose. Il faut s'occuper de Balthazar. Je peux pas voyager juste pour faire mon but de résilience. C'est résilience en famille, quoi. C'est que maintenant on passe à autre chose, quoi. C'est-à-dire que il faut alors j'ai pu garder si je repassais, je retrouverais sûrement beaucoup de contacts que j'ai eus. Parce que, par exemple, tous mes contacts ouzbeks, c'était l'ami de mon éditeur. Donc, par mon éditeur, je peux les avoir facilement. Puis après, maintenant, avec Internet, on peut retrouver facilement les contacts. Mais si j'ai pas de raison d'y retourner dans chaque endroit, moi, c'est vrai que c'est un moment qui se vit sur le moment. Et après, le moment... passe et on passe à autre chose. Faut toujours regarder devant.
Pourquoi est-ce que vous avez appelé votre périple Résilience?
Alors, Résilience, je pense que c'est un de mes amis de l'époque qui m'avait dit, mais C'est vraiment le mot qui convient à ce que, tout ce que tu as vécu, c'est résilience. Parce que enfin, j'avais cherché la définition. En fait, résilience, c'est la faculté d'avoir des gros coups traumatiques, enfin, et d'arriver à renaître et de former une autre chose de ce qu'on est, mais qui est au final plus belle. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai défini après. Et du coup, je trouvais que dans ce message du voyage, c'était ça, c'était faut pas voir ce qu'on peut plus faire, mais il faut voir ce qui est encore possible et vivre avec toutes ces choses. C'est une renaissance, mais c'est vivre aussi avec ce qu'on est, avec ce qu'on est avant et maintenant, et faire avec ce que, et avancer devant et avec ce qu'on a toujours, parce que tant qu'on vit, on peut vivre de belles choses.
Dans votre film, vous dites que vous avez beaucoup été hébergé par l'habitant. Et donc, je me demandais comment vous les rencontriez, ces personnes. Est-ce que c'était en lien avec les associations sur le handicap ou non?
En fait, il y a de tout. Parce que dans les grandes villes, les grandes villes, par exemple, européennes, souvent, j'avais des contacts. Je vais vous en raconter une ou deux, comme ça, Mais à chaque fois, il y a eu toute une histoire à chaque endroit où je suis passé. Par exemple, la ville d'Aiguère est jumelle avec la ville de Mâcon. La ville de Mâcon était partenaire du projet. Donc, du coup, dans cette préparation, je m'étais mis en relation avec le comité de jumelage. Et du coup, j'avais un contact à Aiguère. Et quand, après avoir rencontré mes contacts à Aiguère, avoir fait une conférence là-bas, j'ai rencontré une dame, Gisela, elle s'appelle. D'ailleurs, on la voit dans le film. Et elle m'avait dit... J'ai un appartement à Budapest. Si tu vas à Budapest, je te prête mon appartement. Tu peux même y rester avec tes parents. Je lui avais dit que mes parents venaient à ce moment-là. Elle m'a dit je prête mon appartement. Puis elle est partie chez une copine. Donc, c'est, dans les grandes villes, c'est vrai qu'il fallait. C'est difficile d'arriver dans une grande ville sans rien connaître. Bon, après, dans les villes indiennes, par exemple, quand j'arrivais dans les grandes villes qui sont vraiment grandes, du coup, j'allais au poste de police et le poste de police, il trouvait toujours un endroit où dormir, quoi. Donc voilà, il y a des millions de méthodes possibles. Après, j'ai aussi eu recours à des sites comme, je ne sais pas si vous connaissez, Couchsurfing, qui permet de rencontrer des anglophones dans les grandes villes. Donc j'ai eu ça quand je suis arrivé après Tashkent en Almaty. Donc à Almaty, avant d'arriver à Almaty, comme j'arrivais tout de suite en avion et tout, j'avais pas le temps de rencontrer des gens sur la route avant. Donc du coup, j'avais rencontré sur Internet avant de partir. Bon, je suis arrivé une semaine avant que je devais arriver, la date où je devais arriver normalement. Donc du coup, ça a un peu précipité les choses. Mais sinon, c'est, grâce à ça, ça m'a donné aussi une autre piste pour rencontrer des gens. Donc en fait, surtout quand on est seul, je pense quand on voyage, parce que j'en ai rencontré aussi depuis que je fais des conférences là-dessus, sur des festivals, des personnes qui voyageaient à plusieurs en famille. Et après, quand on est en famille, il y a aussi le fait d'avoir un enfant, d'autres familles vont vous tendre la main plus facilement aussi. Donc je pense qu'on a peur... de ce qu'on ne connaît pas, mais dès qu'on force un peu les choses, enfin, entre guillemets, ben on n'a toujours que des bonnes surprises. Moi, dans tous les pays musulmans, j'ai vraiment eu que des bonnes surprises, quoi. Les seules fois où il peut y avoir des malentendus, c'est plus des malentendus. C'est des choses qui manquent de parler, mais dès que je pouvais expliquer mon histoire et ce que je faisais, les gens étaient heureux de m'accueillir. Quelques endroits que ce soit. Après, des fois, j'ai dormi. Après 130 km de vélo, ce que je faisais à peu près journellement, on dort bien. Donc, même si on ne trouve pas forcément des endroits un petit peu spartiates, quelquefois, ça ne m'a pas empêché de dormir et de me reposer. Dans les budgets du voyage, il y avait tous les budgets de communication. Il y a un budget global et il y a plein de choses. Après, il y a les assurances. comme je partais avec des partenaires, je pouvais pas partir en ayant le risque qu'il m'arrive quelque chose. Donc du coup, j'avais des assurances rapatriement, toutes ces choses-là. Mais après, le voyage lui-même, il me coûtait pas très cher au jour par jour. Comme je vous disais, même en Grèce, par exemple, où j'avais peur, je me demandais comment ça allait être, vu que la Grèce était dite en crise avant que je parte. Et là-bas, j'ai jamais rien pu payer. On m'a toujours offert. J'allais dans un magasin, hop, tout ce que je voulais prendre, on me l'offrait. Disons que pour les Grecs, ils font pas beaucoup de vélo, qui voyaient que mon gros vélo et ça, ils m'offraient tout le temps tout. Donc, voyager en vélo, ça coûte pas très cher. Puis après, vous trouvez plein de gens qui vous aident partout. Hein. Je sais pas, j'avais 20 000 euros de budget de départ. Mais ça m'a permis, par exemple, aussi de m'aider à écrire le livre à la fin. Donc il y avait plein de dépenses annexes. Ça m'a permis aussi de payer le billet d'avion de retour. Il y avait plein de petites choses que ça comprenait. Mais la vie au quotidien ne m'a pas coûté beaucoup. Parce que 20 mois pour juste 20 000 euros, ce n'est pas beaucoup.
Et maintenant, Jean-François va vous poser quelques questions sur votre engagement associatif.
Résilience 29 favorise la réinsertion des personnes handicapées et des traumatisés crâniens. De quelle manière ?
Résilience 29, en fait, c'était l'association en fait, qui m'a permis de créer, en fait, de pouvoir réunir tous mes partenaires avant le voyage. Et du coup, mon objectif avant de partir, je m'étais dit un petit peu de la même manière dont fonctionnent les GEM. J'aimerais bien créer quelque chose comme ça. Et en fait, au moment où je suis parti, les GEM n'existaient pas. Enfin, il y en avait peut-être quelques-uns qui existaient, mais il y en avait beaucoup qui n'existaient pas. Et dont d'ailleurs où j'habitais, Brest, il n'y en avait pas. Et en fait, quand je suis revenu, l'année où je suis revenu, le GEM s'est créé. Donc du coup, je pense que moi je trouve que c'était un petit peu le genre de choses qui était très intéressante dans les grandes villes de construire pour les traumatisés crâniens. C'est vraiment quelque chose que j'encourage et auquel je participe. Là, il est en train de s'en monter à Bourg-en-Bresse où... Malheureusement, sur Mâcon, il n'y a pas d'AFTC, donc du coup, je suis un peu triste de ne pas pouvoir m'engager avec d'autres traumatisés crâniens sur Mâcon. Mais du coup, j'essaye de le faire avec Bourg-en-Bresse, et notamment avec on va le faire via le triathlon qu'on fera à la fin du mois. Et après, c'est vrai que par rapport à Resilient 29, c'était à l'époque quand l'association a été créée à Brest. Et du coup, comme je suis... les choses sont faites, du coup, je suis revenu. J'ai toujours cette envie de créer l'association. Alors après, j'ai eu envie de la créer aussi, de faire quelque chose avec les vignes familiales chez moi. Et qui est d'ailleurs peut-être toujours un petit peu d'actualité, parce que si on reste sur Mâcon, pour trouver, je trouve que d'enseigner tout le travail de la vigne et tout le travail de la terre, que moi j'aime beaucoup, à d'autres personnes handicapées, ce serait une autre évolution possible de Résilience 29. Donc c'est d'autres pistes qui sont toujours possibles et toujours en tête. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il a fallu avancer sur d'autres points. Mais c'est quelque chose que je garde toujours en tête.
Cette association, vous n'y êtes plus, en fait. Elle s'est fait le temps et maintenant...
Elle n'existe plus, en fait. Elle était faite pour le voyage.
Ouais. Qu'il y a une autre association dans laquelle vous militez actuellement avec le GEM de Bourg-en-Bresse, vous disiez ?
En fait, voilà. Là, j'appartiens à la FTC de Bourg-en-Bresse. Voilà. Et donc du coup, on fait plusieurs actions. Après, il y a aussi avec avec l'AMI, qui est une association sur Mâcon aussi pour les personnes handicapées.
Y a-t-il d'autres questions ?
Non.
Non ? Sans mot de tête, nous aimons finir par cette dernière question. Avez-vous un message à faire passer ?
Moi, le message que j'ai envie de faire passer à tout le monde et aux traumatisés crâniens en premier, parce que je me sens lié avec eux de par mon histoire, aux traumatisés crâniens et aussi aux malades, parce que j'ai quand même eu toute la période du lymphome, c'est qu'il faut toujours regarder devant et regarder ce qu'on a encore et ce qu'on peut faire, alors que de regarder ce qu'on a perdu et qu'on ne peut plus faire. Parce que j'ai fait de la montagne à haut niveau, j'ai pas fait que de la montagne à haut niveau, j'ai fait du rugby à haut niveau, j'ai fait de la course à pied, de la course de natation à haut niveau. Et aujourd'hui, je peux plus faire les mêmes choses, mais en même temps, je peux faire de belles choses. J'ai ma femme et mon petit garçon qui m'apportent du bonheur tous les jours et avec qui on est en train de monter le projet du triathlon. Donc il faut regarder toujours ce qu'on peut faire et rêver avec ce qu'on peut encore. Et ça peut être des choses simples, ça peut, je veux dire, moi par exemple, alors j'aimerais pouvoir m'y remettre, mais c'est pas encore forcément dans l'immédiat, mais j'aimerais aussi pouvoir me remettre à la peinture, peut-être aussi, peut-être plus tard refaire quelque chose d'associatif un peu par rapport à la peinture, parce que je trouve que quand on est traumatisé crânien, la peinture, c'est quelque chose qui permet vraiment de s'extérioriser et de partager un art, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout ce qui est art, c'est des belles choses et qu'il faut partager. C'est des belles choses de la vie et qu'il faut partager et apprécier.
Nous vous remercions, Vincent Bernard, pour ce témoignage et son film. Le public pour sa participation, l'équipe de Diane pour son accompagnement et les adhérents bénévoles et pour toutes les personnes du GEM et de l'FTC pour avoir rendu ce moment possible. L'émission d'aujourd'hui est spécialement dédicacée à Françoise Turenne. Nous te souhaitons un bon rétablissement et reviens-nous vite. Nous vous rappelons que vous pouvez nous écouter sur son mototête, sur le site www.lavoisdesgens.fr.